T'es en manque d'inspiration?
T'es curieuse?
À la bonne heure, tu es au bon endroit.
Vos médiathèques s'invitent à Radio B pour vous présenter leur coup de cœur du moment.
Nos chroniques sont à retrouver le 4e mercredi du mois.
À 7h30, 8h30 et 12h30.
Rediffusion le samedi à 12h30.
Tu nous as ratés?
Pense au podcast.
Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Nous vous avons aujourd'hui concocté une jolie sélection à dévorer sans modération. Vous ont miseauté ce jour de belles chroniques pour vous mettre en appétit. Mélanie avec l'ouvrage La photo, pourquoi il faut désobéir de Innocento Nagara. Kevin avec le manga Les enfants d'Hippocrate de Toshio Higashimoto. Lison avec le roman jeunesse Mon petit frère est une pastèque de Laurent Rivelègue. Et Charlène, moi-même, avec le roman Les bouchères de Sophie Demange. Et nous commençons tout de suite cet appétissant voyage littéraire avec ma chronique.
Mais moi j'aimerais vraiment pouvoir abandonner mon moulinesse, devenir unisexe. Pour savoir marcher, fumer toute la journée, marcher tout en sifflant, porter des pantalons.
Mes héroïnes du jour ont bel et bien abandonné leur moulinesse, fumé toute la journée tout en portant des pantalons. Dans Les bouchères de Sophie Demange, il semblerait que Anne, Stacy et Michel aient pris très à cœur les paroles de cette chanson de la femme que j'affectionne particulièrement, intitulée « Si un jour ». Mais avant de nous pencher sur ce livre, quelques chiffres intéressants pour nous mettre en boucherie. Oui, j'aime les jeux de mots. D'après le réseau Serre France, réseau de conseil et d'expertise comptable, le secteur de la boucherie en France comprend seulement 30% de femmes, un chiffre stable depuis une dizaine d'années. Mais en boucherie, la répartition des métiers par secte est fortement marquée avec 70% de femmes occupant des postes d'employés, surtout à la vente, contre 77% d'hommes au poste de boucher. Notre autrice choisit donc dans son ouvrage Les bouchères, sorti le 23 janvier de cette année aux éditions L'Iconoclaste, un corps de métier intéressant car très affilié à la masculinité. Un choix audacieux et très malin qui permet d'aborder une multitude de sujets de société tels que celui de la place des femmes. Nos trois protagonistes, Anne, Stacy et Michel, travaillent au sein d'une boucherie d'un quartier un peu chic de Rouen. Cette boucherie appartenait au père d'Anne qui en a hérité et l'a entièrement revisité en assumant la féminité de son équipe, que ce soit dans la décoration, les choix vestimentaires ou encore les stratégies commerciales. Sophie Demange nous décrit avec justesse le passé de chacune de ces bouchères qui ont toutes été marquées par une certaine violence. Et plutôt que de se laisser abattre, elles se donnent à fond dans leur métier. Quand des disparitions surviennent dans leur quartier, elles arrivent vite dans le collimateur des habitants. Mais est-ce bien à tort? Et après tout, à qui va manquer ce charcutier violent? Cet avocat adultère et adepte de bonne chère trop jeune, ce violeur pédocriminel protégé par sa famille, ou encore cet homme incestueux et pervers narcissique. Ce roman, en plus d'être original, nous en apprend plus sur un métier particulier qui peut faire la controverse. Petite pensée pour nos amis végétariens, N et vegan, avec un angle féminin très intéressant. La diversité des personnages et l'exploration de leur psychologie nous plonge vraiment dans le récit qui est à la fois drôle, touchant, surprenant, certes un peu excessif et parfois grotesque, mais assez cathartique pour la femme lectrice que je suis. Je terminerai cette chronique par un court extrait qui en dit long sur le tranchant de la plume de l'autrice. Elles avaient de longs ongles colorés, parfois pailletés, qui contrastaient avec leur peau blanche ou noire. Elles portaient les cheveux longs ou courts, savamment coiffés ou lâchés au naturel. Leurs tabliers de cuir laissaient entrevoir leurs formes arrondies et appétissantes de jeunes femmes, alors que leurs chemisettes à manches courtes exhibaient des biceps et des avant-bras tatoués, aux muscles tendus lorsqu'elles saisissaient fermement leur couteau pour entamer une découpe. Dans ce quartier conformiste, elles étaient l'incarnation de désirs confus et inavouables. En un an à peine, elles avaient ouvert une boucherie à succès qui faisait parler d'elles dans tout Rouen. On disait qu'elles étaient un peu décalées, des punks chics, mais avant tout des acharnées de travail. Et de fantastiques bouchères. La qualité de la viande était toujours au rendez-vous. Et avant de laisser la parole à Mélanie, n'oubliez pas...
Merci Charlène, ça donne envie de rentrer dans une boucherie, ou pas, mais en tout cas de lire le livre. Je pars dans un autre domaine avec un documentaire pour les jeunes à partir de 8 ans qui s'appelle La photo ou pourquoi il faut parfois désobéir, de Innocento Nagara, qui en est l'auteur et l'illustrateur. Ce documentaire explique le principe de désobéissance civile avec des exemples du monde entier et de très belles images colorées, percutantes et expressives, dans des tons chauds. Il permet d'aller à la rencontre de ces personnes qui n'ont pas respecté la loi pour défendre leurs valeurs et pour acquérir de nouveaux droits. Comme Claudette Colvin qui a refusé de s'asseoir au fond du bus parce qu'elle était noire, ou encore comme les indigènes de Colombie qui ont fait barrage au forage pétrolier afin de protéger leurs terres. Plongez dans l'histoire et découvrez ou redécouvrez le soulèvement en Inde contre la colonisation britannique, les boycotts des ouvriers qui récoltent les tomates en Floride, ou le décrochage du drapeau confédéré, représentant un symbole du racisme sur certains monuments aux États-Unis. On a affaire là à des sujets graves racontés aux jeunes avec une simplicité adaptée, tout en expliquant des mots comme ségrégation, blocus, boycott et d'autres. C'est un ouvrage de sociologie et d'histoire qui se présente comme un album, en partant d'un questionnement sur une photo, et donc qui entremêle un récit de fiction. Il se lit très rapidement et offre une réflexion sur le courage ou comment agir pour un monde meilleur. Innocento Nagara milite pour les changements sociaux et écrit à destination des jeunes sur ces thèmes qui lui tiennent à cœur. La photo ou pourquoi il faut parfois désobéir est son seul livre traduit et paru en France aux éditions La Patrie, une jeune maison d'édition de livres illustrés pour tous les âges. Je vous lis un petit extrait. Je parie que tout ça te donne des idées. Est-ce que tu penses que parfois, lorsque tu ne suis pas les règles, il s'agit de désobéissance civile? Est-ce que te cacher sous ton lit pour ne pas aller au bain est une forme de sit-in? Est-ce que refuser de manger ton repas, c'est du boycott? Peut-être. Ou peut-être pas. Mais je devais te parler de la photo. Chaque fois que des enfants viennent à la maison, ils me posent des questions au sujet d'une photo au mur. Cette photo a été découpée dans un journal, encadrée et accrochée au milieu d'autres photos de famille. Deux personnes en tenue de mariée s'embrassent. Ces deux personnes, ce sont Mama et moi, le jour de notre mariage. Comme tu peux le voir, cette photo de mariage a quelque chose de spécial. Alors voilà, pour découvrir l'histoire de cette photo, rendez-vous à la médiathèque Césaire pour lire la photo ou pourquoi il faut parfois désobéir. Je laisse maintenant la parole à Kevin.
Merci Mélanie. Bonjour. Alors, il y a quelques années, je me suis assis derrière ce même micro pour vous dire tout mon amour du Bateau de Thésée, un manga en 10 tomes de Toshiya Igamoto. Un superbe thriller avec une pointe de fantastique, du voyage dans le temps et des enfants menacés de mort. Eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui encore, je viens vous dire tout mon amour d'un manga de 10 tomes de Toshiya Igamoto. Alors, pas de voyage dans le temps cette fois-ci, mais encore plus d'enfants menacés de mort. Laissez-moi vous parler des enfants d'Hippocrate. Alors, de quoi ça parle? Mako est un jeune pédiatre qui adore son métier. Doux et patient, il se met à hauteur d'enfant. Il cherche à les comprendre, à les faire rire, et ne se cache jamais derrière l'autorité que lui confère sa blouse blanche. Malheureusement, vous n'êtes pas sans savoir qu'au Japon, le taux de natalité se casse la figure. Et cela a des retombées sur les services pédiatriques, qui ferment les uns après les autres par manque de rentabilité. D'un côté, les parents sont obligés de faire de plus en plus de routes pour soigner leurs enfants. De l'autre, les médecins sont obligés de faire des choix pas toujours éthiques. Et cela a détruit la famille de Mako. Son père, directeur d'hôpital, ayant dans le passé choisi de fermer l'aile pédiatrique dans laquelle travaillait sa propre femme. Le couple s'est séparé, emportant chacun un de leurs enfants pour partir pratiquer sa vision de la médecine à l'autre bout du pays. Bien des années plus tard, Mako, qui a été élevé par sa mère, est donc devenu pédiatre. Et il reçoit une lettre de son père qu'il n'a pas revue depuis. Dans cette lettre, il lui annonce qu'il ouvre une clinique pédiatrique nouvelle génération et qu'il aimerait que son fils le rejoigne dans cette aventure. plus axée sur le social et la partie diagnostique que sur les opérations, ici vous ne verrez pas de sang ou de gros plans sur des intestins. On voit les médecins faire face à des parents surprotecteurs qui exigent un service immédiat. On voit des enfants donner des leçons de résilience aux adultes autour d'eux. On voit des soigneurs confronter leur médecine. Émotionnellement, ça peut être dur à lire, notamment pour les parents. Même si la majorité des cas se finissent bien, préparez vos mouchoirs. En réalité, ce titre est une très bonne porte d'entrée pour ceux et celles qui ne lisent pas de manga. Les dessins sont doux, assez réalistes, mais clairs et aérés. Le récit avance à bon rythme, chaque tome verra la résolution d'au moins un cas médical, tout en faisant progresser les relations de Mako avec son entourage. Car oui, vous vous en doutez, le jeune homme nourrit beaucoup de ressentiments envers son père. Et son frère, qui va débarquer plus tard, ne va rien arranger à l'histoire. Enfin bref, si vous aimez les séries médicales, Grey's Anatomy, Urgence, Dr House, ce manga est fait pour vous. C'était Kevin avec Les Enfants d'Hippocrate, disponible à la médiathèque Vaillant. Et je laisse à Lison le soin de conclure cette émission.
Merci Kevin. Aujourd'hui, moi je vous parle d'un petit roman jeunesse. Jules a une vie bien remplie. Entre l'école, ses amis Kevin et Fatoumata, les tartines aux bananioles, son chocolat préféré, et les épisodes de Belzébouc, le diablotin de l'espace, où ce dernier se fait attaquer par des huîtres cosmiques, il n'a pas le temps de s'ennuyer. Mais en plus de ça, ses parents ont décidé de lui fabriquer un petit frère. Et c'est pour bientôt. Alors, le jour où ils finissent par partir à l'hôpital en le laissant à sa grand-mère, il s'attend à ce que son petit frère arrive sous peu. Comme ses parents hésitent encore sur le prénom, lui a d'ailleurs décidé qu'il l'appellerait Bananiole. Et puis soudain, tout devient étrange. Après plusieurs coups de fil, sa mamie qui pleure parfois au téléphone oublie de l'emmener à l'école et répète en boucle « ça va aller, ça va aller ». Ses parents reviennent sans sourire et sans bébé. Et personne ne s'occupe de lui, personne ne lui explique rien. Et c'est ça, vraiment, le sujet de ce petit roman. Ce qu'on dit, ce qu'on explique ou pas aux enfants, et parce qu'on pense qu'ils sont trop petits, parce que c'est difficile, parce qu'on ne sait pas quoi dire, quand, comment, parce qu'on n'a pas toutes les réponses. « Je t'expliquerai plus tard », lui lâche son papa en le prenant dans ses bras à son retour de l'hôpital. Mais c'est tout ce à quoi Jules aura droit, avec des parents évidemment plongés dans leur propre tristesse et leurs angoisses d'adultes. C'est donc lui qui va devoir combler l'absence de mots, c'est lui qui parle tout au long du roman, comme dans cet extrait que je voulais vous lire. Pour le deuxième jour consécutif, je ne suis pas allée à l'école. Manifestement, mon petit frère, à peine arrivé, était reparti. Peut-être qu'il avait vu nos parents et qu'il ne lui avait pas plu, alors il avait dit au médecin que non merci, il ne rentrerait pas avec ces gens-là. Je sais pas ce qui se passe quand on est dans le ventre de sa mère. Peut-être qu'on se fait des idées, qu'on s'imagine que ça va être génial à la sortie, que son père c'est Spider-Man et que sa mère c'est une magicienne qui transforme les choux de Bruxelles en gâteau à la crème. Et ensuite on est déçu. Vers 16h30, je suis descendue pour goûter. Papa et maman dormaient dans leur chambre enlacés. Dans le salon, mamie en faisait autant dans le fauteuil, la bouche ouverte en imitant le bruit de la tondeuse à gazon de papa. J'ai ouvert le frigo. À l'intérieur, il y avait une grosse pastèque. Et c'est là que j'ai compris. Bananiole n'était pas partie. Mon petit frère était juste une énorme pastèque. Et mes parents l'avaient mis dans le frigo après sa naissance parce qu'ils en avaient honte. J'étais furieux. Et j'ai immédiatement décidé de le sauver et de m'occuper de lui. Le pauvre, abandonné dans ce machin tout froid et sans lumière. Je l'ai porté tout d'abord et je l'ai ensuite fait rouler dans le couloir jusqu'à ma chambre parce qu'il était vraiment lourd. Je l'ai poussé sous son lit en lui demandant de ne pas faire de bruit pour ne pas attirer l'attention de nos parents qui n'hésiteraient pas à le remettre au frigo. J'étais fière de moi. C'était la deuxième bonne action de ma vie, avec la fois où j'ai aidé Fatoumata à terminer ses concombres à la cantine pour qu'elle puisse avoir une deuxième ration de frites. Et la vie continue. Avec les copains, les goûters d'anniversaire et Bananiole qu'il faut bien cacher à ses parents, ce qui donne lieu à de multiples aventures rocambolesques. La véritable force de ce livre, c'est de parvenir à être si drôle sur un sujet si grave. Le texte de Laurent Rivelègue est bourré d'humour et les illustrations d'Olivier Talec l'accompagnent parfaitement. Finalement, à force d'invention et de questionnement, Jules parviendra bien sûr à étonner tout le monde et à obtenir la conversation de grand qu'il fallait qu'il ait, avec son papa à la fin du livre. Ça va sûrement vous surprendre, mais son petit frère n'est pas une pastèque. Il ne s'appelle pas Bananiole, mais Colin. Et il est en couveuse à l'hôpital suite à un souci de santé. Ses parents ont eu très peur, mais il va beaucoup mieux, rentrera bientôt à la maison. On respire avec Jules, qui nous a pourtant fait rire tout au long du récit malgré les difficultés et a fait preuve d'une imagination sans limite et d'une détermination à toute épreuve. Un héros comme on les aime à proposer à tous les enfants dès 8 ans. « Mon petit frère est une pastèque » de Laurent Rivelègue est à retrouver à la médiathèque Césaire. Et on se retrouve tous en juin pour une nouvelle chronique radio. En attendant, bonne découverte culturelle à toutes et tous et à bientôt.
T'es en manque d'inspiration?
T'es curieuse?
À la bonne heure, tu es au bon endroit.
Vos médiathèques s'invitent à Radio B pour vous présenter leur coup de cœur du moment.
Nos chroniques sont à retrouver le quatrième mercredi du mois.
À 7h30, 8h30 et 12h30.
Rediffusion le samedi à 12h30.
Tu nous as ratés ?
Pense au podcast.